Ouais, il est 10h et on va commencer comme d'habitude avec le beau jingle qui fait peur à tous les enfants de la Terre.
La seule émission qui n'a pas de nom.
Ça n'a pas de nom. Oh.
Et non, toujours pas de nom. Et il est 10h comme je l'ai dit juste avant, enfin à peu près. Je suis pas super à l'heure, je suis pas super fier de moi. Donc elle a pas de nom, je me suis dit pourtant qu'avant 10h je trouverais un intitulé pour l'émission, mais j'ai pas trouvé. J'ai hésité entre l'émission qui maintenant a un nom et une heure de pêche à la truite, mais c'était un peu trop segmentant au niveau de certaines niches marketing. Pour finir, qu'est-ce que je m'en fous puisque cela va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire un tricot en chandail. Non, je rigole. Je veux faire comme d'habitude, dans la seule émission qui n'a pas de nom, on va se divertir en s'informant. Parce que je suis comme ça, moi, j'ai envie d'égayer votre vie, ou alors peut-être que je n'ai que ça à faire dans ma vie que de préparer une heure de divertissement informatif. La base de l'actualité, c'est bien sûr la date du jour, et nous sommes le 3 octobre 2011, très important de savoir quel jour on est dans la vie si l'on veut aller de l'avant. Par exemple, quand on est jeune, si on ne connaît pas la date du jour, on peut oublier de s'actualiser à Pôle emploi. Ça marche aussi pour les moins jeunes, enfin pour les quelques millions de personnes qui sont au chômage. Si je pense aux chômeurs, c'est qu'ils sont une niche marketing que je vais tenter d'exploiter. Même si leur pouvoir d'achat est moindre, ils disposent de beaucoup de temps et sont très souvent libres le lundi de 10h à 11h. Ça tombe bien? Alors mes chers amis chômeurs, je suis sûr que vous en avez complètement rien à foutre de savoir quel saint nous fêtons aujourd'hui. Mais je vais quand même vous le dire, hein? J'ai quand même une heure d'émission à faire, moi. Alors on fête aujourd'hui les Gérards. Et comme le dit le proverbe utilisé dans les populations depuis des centaines d'années, non en fait je l'ai inventé pour l'occasion, eh bien ce proverbe dit « Alain Saint-Gérard voyage avec un urinoir ». Ha 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 ha, humour potache. Je sais que les chômeurs apprécieront. Tout comme ils apprécieront mon éditorial superbement engagé, car le chômeur a bon goût et kiffe grave ce que je vais raconter. J'aurais préparé aussi à mes petits chômeurs... D'amour, une revue de presse locale, car ils n'ont pas les moyens d'acheter la presse locale ou d'avoir un téléviseur et un décodeur TNT. Ils ont seulement l'un ou l'autre. Tout le monde sait très bien, d'ailleurs, que pour s'informer, il n'y a que les journaux et la télé. Internet et la radio, ça sert juste à écouter de la musique. Et c'est pour cette raison qu'une partie de l'émission sera consacrée à un album qui est sorti le 26 septembre. Il se nomme Le Chant des Sirènes, c'est le dernier album d'Orelsan, un rappeur normand. D'ailleurs, pour que je me repose un peu de cette sublime diatribe, pas diatribe, bon, de toute façon c'est trop compliqué comme moi, qui vient d'enflammer vos enceintes, si vous écoutiez avec des écouteurs, désolé pour vos tympans, de toute manière vous ne pouvez plus m'entendre tellement j'ai chauffé vos écouteurs, alors nous allons, comme j'essayais de le dire juste avant de partir n'importe où, on va écouter un extrait pour commencer du dernier album d'Orelsan, que je l'ai dit s'appelle Le Chant des Sirènes. C'est une chanson qui s'appelle Raelsan, et moi j'aime bien. Ça commence avec un petit orgue. Un petit orgue, ça se dit pas, mais c'est pour combler le début de la chanson. Allez, à toutes.
Lève ton verre.
Et oui, c'était Orelsan. La chanson qui s'appelle Raelsan sur son album Le Chant des Sirènes. Fantastique album que je vous conseille 100 millions de fois. Et. Oula! Maintenant, nous allons passer à un grand moment de vie. C'est bien sûr mon éditorial. Et on entend toujours la belle musique d'Orelsan derrière. Et maintenant. Le beau jingle de mon édito, si je retrouve mon pointeur de souris, qui a l'air d'être décédé, mais non, il est là. Et mon beau jingle.
L'édito. Tremblez puissant.
Tant le monde politique que celui de la police sont des mondes dans lesquels on devrait s'engager vertueusement pour sauver la veuve et l'orphelin, comme on dit dans les pages roses du dictionnaire. Cependant, ces derniers temps, moultes affaires de corruption viennent entacher l'actualité. Que ce soit en politique ou même dernièrement au sein de la police, ces milieux ont vu souvent de telles affaires être mises au jour depuis de nombreuses années. Mais dis-moi, Jamy, quelle est l'étymologie du mot corruption ? Eh bien, d'après un site internet dont j'ai oublié le nom, mais là n'est pas le sujet, le mot corruption vient du verbe corrompre, venant lui-même du latin corrumpere, ou corrumpere pour les latinistes engagés, qui signifie briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement. De là, je n'ai pas allé très loin pour sortir la problématique suivante : que brisent les affaires de corruption ? Mince, mais si je donne pas le nom du site internet sur lequel j'ai piqué l'étymologie, est-ce que je risque la peine de mort ? Cette dernière phrase ne fait pas partie de ma problématique, c'est juste une tentative de lancement de running gag. Donc pour répondre à la problématique, et non pas à la question sur quel site internet j'ai trouvé cette étymologie, mais plutôt pour découvrir ce que brisent les affaires de corruption, je vais faire appel à un plan vraiment trop scolaire. Oh puis, je m'en moque. Vous ne me donnerez pas de notes pour cette dissertation, donc un sublime plan en trois parties, je crois qu'on s'en passera. Ah si, allez, on va y aller. On va dire que tout d'abord, on va essayer de voir à qui peut profiter la révélation de telles affaires. Et ensuite, nous attellerons à voir si ces affaires... Oh, puis non. Non, en fait, non, pas de plan. Je veux pas que ça à faire un plan. On n'est pas à l'école. Hein. Alors, pourquoi ces affaires sortent au grand jour maintenant ? En effet, il est étonnant que la conscience de toutes les personnes qui révèlent des affaires se réveille toutes en même temps. On pourrait penser que cela est dû à l'automne. Mais comme cela n'a aucun rapport, on élimine tout de suite l'hypothèse. Alors après, beaucoup de propositions de réponses peuvent venir. Peut-être ces personnes libèrent leur conscience de ces méfaits. Ont appris que l'année prochaine, soit en 2012, la fin du monde surviendra le 21 décembre, comme l'ont prédit les Mayas. Il serait donc dommage de voir la fin du monde sans même avoir soulagé sa conscience. À moins qu'une autre échéance de 2012 les ait aidés à se soulager de leur terrible secret. En effet, 2012 sera une année bissextile. Et par humanisme, les gens balancent maintenant. Comme ça, la personne qui est balancée fera un jour de plus de tôle le 29 février et pourra vraiment avoir payé sa dette à la société. À moins que ce soit parce qu'en 2012, il y aura les élections présidentielles et législatives. Ce qui explique sûrement les nombreuses affaires concernant la politique sortent en ce moment, que ce soit les révélations de Bourgie concernant des cadeaux à des politiques français de la part de dictateurs africains, par exemple à Chirac et de Villepin, dont le surnom pour recevoir des djembés remplis d'argent aurait été Mamadou. C'est ironique. Et d'ailleurs, étrange d'envoyer des djembés lorsqu'on s'appelle Bongo. Ok, ça c'était une private joke pour les percussionnistes. Paraîtrait-il même que, d'après Monsieur Bourgie, que même Jean-Marie Le Pen recevait des petits cadeaux pécuniers de la part de dictateurs africains pour l'une de ses campagnes. C'est assez ironique tout de même. Sinon, on peut ajouter encore à ces révélations celle de Taki Eddine et autres documents concernant l'affaire Karachi qui implique Balladur, mais aussi quelqu'un qui est désormais très haut placé dans l'État. Oui, j'ai peur de dire qu'il s'agit du président de la République, Nicolas Sarkozy. Enfin, j'ai pas plus peur de dire Sarkozy que de ne pas avoir dit le nom du site internet sur lequel j'ai copié l'étymologie du verbe corrompre. Toutes ces affaires sont sur les grands médias depuis quelques jours, alors que cela fait plusieurs mois que le site d'information Mediapart a mis en ligne les documents de l'affaire Taki Eddine. C'est bizarre, hein ? En ce qui concerne l'affaire Michel Néret, le second de la police judiciaire de Lyon qui serait impliqué dans des trafics de stupéfiants à grande échelle, ainsi que dans des histoires de blanchiment d'argent, il y a plusieurs possibilités pour que ceux qui ont fait sortir ces infos l'aient fait. Première supposition, soit ils voulaient récupérer les affaires de ce policier et aussi toucher le magot. Deuxième supposition, soit comme tout délinquant, un jour, il se fait péter, hein. Et s'il avait été président de la République avant, ça aurait pu être plus pratique pour échapper à la justice. Car malgré le fait qu'on dise que la justice soit neutre, on essaie de nous le faire croire, le parquet, autrement dit les procureurs, dépendent d'un ministère et ont donc pour supérieure hiérarchie qu'un ministre. Donc il semble plus facile d'avoir un réquisitoire moins acharné si vous êtes un politique. Troisième supposition. Les affaires servent à entretenir une opinion du tout pourri. Mais vu que tous les présidents de la République ont été impliqués dans des affaires louches, sans compter les ministres et autres députés ou maires, il est normal que les gens pensent que tous les politiques sont pourris. Bon, après, il semble aussi normal qu'après avoir payé leurs dettes à la société, ils puissent reprendre des activités. De toute façon, on n'élit pas un politique à son honnêteté, mais pour ses idées, normalement. Mais voyant tous les camps, sauf l'extrême gauche, impliqués dans les révélations récentes, on peut aussi se dire que les communistes sont soit très intègres et n'acceptent aucune corruption, sinon ils sont très malins et cachent bien les éventuelles corruptions, soit, hypothèse que je vais peut-être retenir, les éventuels corrupteurs, je ne sais pas si ça se dit corrupteur, mais bon, on s'en fout. Donc ces éventuels corrupteurs pensent que ça vaut même pas le coup de graisser la patte aux communistes. Mais dites-moi, Jamy, quelles sont les conséquences de la corruption, vous allez me dire? Ah non, vous pouvez rien me dire parce que je suis tout seul dans le studio de Radio Bip. Eh bien, les affaires n'ont en général pas grande incidence dans les élections, même si certains politiques ne sont jamais relevés de leur déboire. Il y en a beaucoup qui ont repris leur vie politique malgré des histoires judiciaires. On peut nommer, pour être paritaire, un homme de gauche, par exemple, Laurent Fabius, qui avait été impliqué dans l'affaire du son contaminé, qui maintenant refait de la politique. Et pour la droite, Alain Juppé, qui était impliqué dans les affaires des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais j'allais oublier, en parlant de la mairie de Paris, Chirac, qui a été réélu président de la République alors même qu'il avait des jugements dans lesquels il devait comparaître et auxquels il ne s'était pas présenté. Si l'histoire de Dominique Strauss-Kahn était un piège, comme il l'a prétendu dans le journal de TF1, celui-ci pourrait démonter mon argumentaire, car cela l'a empêché de se présenter à une présidentielle dans laquelle les sondages le plaçaient largement vainqueur. Cependant, n'oublions pas qu'il avait été impliqué dans les histoires de l'AMNEF et qu'il avait su rebondir. Dans un esprit totalement tordu, j'ai envie de dire que ce sont les journalistes qui sortent ces histoires, lorsqu'ils n'ont rien d'autre à raconter. Tout comme je suis en train de le faire en ce moment. Et je pense qu'ils doivent encore avoir de nombreuses affaires à ressortir bientôt quand l'actualité sera trop pauvre. Les politiques sont assez sympas avec les journalistes pour leur offrir des affaires lorsqu'ils souhaitent se débarrasser d'un concurrent potentiel, que ce soit un adversaire de l'autre bord ou même quelqu'un de son clan. Mais ce ne sont que des suppositions. De toute façon, faut pas croire tout ce que je raconte ici. Hein, si je vous disais par exemple qu'on allait construire un tram à Besançon, vous me croiriez? Et si j'étais fou et que j'imaginais que la mairie de Besançon et la communauté de communes avaient été corrompues par CAF, ce constructeur espagnol, pour le choisir pour construire son tramway, alors que dans la région il y avait une entreprise qui s'appelait Alstom qui pouvait éventuellement le faire? Non, ce serait vraiment tordu de penser de telles choses, et en plus, ce serait probablement diffamatoire. Sauf si je fais remarquer que c'était juste afin de resserrer ma conclusion plus localement, afin de préparer le terrain pour ce qui va arriver après, c'est-à-dire ma revue de presse locale. Mince, mais c'est quoi déjà ce site sur lequel j'ai trouvé l'étymologie du verbe corrompre?
La seule émission qui n'a pas de nom.
Ça n'a pas de nom? Oh. Eh ben non, toujours pas de nom. Et je me suis embêté toute la semaine à feuilleter la presse locale, à regarder les passionnants JT de France 3 Franche-Comté pour faire une revue de presse locale. Ouais, je me suis dit, je suis sur une radio locale. Si je faisais des infos locales, ce serait pas con, hein? Eh oui, il y en a là-dedans. Alors, on va commencer tout naturellement, dans un ordre chronologique, avec le lundi 26 septembre. Je ne sais plus quel temps il faisait, car clairement, on s'en fout un peu de la météo de la semaine dernière. Mais je peux vous assurer que j'ai regardé le 12-13 de France 3 Franche-Comté et qu'il était présenté par Céline Lang.
Madame, monsieur, bonjour.
Comment ça, madame, monsieur, bonjour? Ça s'entend pas que je suis un homme? Est-ce que je dois déposer de façon violente les attributs de ma virilité sur le micro pour le prouver? Enfin, cette présentatrice porte une robe d'un rouge flamboyant. Est-ce pour fêter ceci?
Ce lundi 26 septembre, le Sénat est désormais à gauche.
Eh oui, le rouge, couleur de la gauche, de la passion. Beaucoup de quotidiens ont inséré dans leur titre de leur une le mot...
historique.
Oui, c'est bien, Céline. Tu l'as dit aussi, c'est bien. L'esprit républicain, lui, a trouvé plus fort de faire remarquer sur sa une que la droite était chaos. Même si Philippe Rive, dans la page consacrée au sénatorial, titre « Révolution au palais du Luxembourg » et insère tout de même ce sublime mot.
Historique.
Cependant, le Jura, lui, n'avait pas rendez-vous avec l'histoire. Expliquez-nous donc, François Franche-Comté.
Dans notre région, le département du Jura, où deux postes étaient à pourvoir, n'a pas participé à cette victoire. Les deux sénateurs UMP sortants ont été réélus.
Je lui laisse dire, parce qu'elle, c'est son métier, elle est payée pour faire ça. Donc oui, le candidat PS Denis Vuillermeau aurait pu remporter un siège de sénateur dans le Jura si d'une part, Sylvie Vuillermet, fraîchement démissionnaire de l'UMP, malgré ses 251 voix au premier tour, ne s'était pas retirée. Alors voici ce que cette dame, Sylvie Vuillermet, a déclaré à France 3 Franche-Comté.
Je n'ai donné aucune consigne de vote. Voilà, j'ai retiré ma candidature, il y a devant moi deux sénateurs sortants de droite et puis deux candidats de gauche et je n'ai donné aucune consigne de vote.
Ils sont forts ces politiques, s'ils n'ont pas envie de dire quelque chose, eh ben ils le diront pas. Elle dira pas que son retrait favorisait les sénateurs sortants UMP, Gilbert Barbier et Gérard Bailly. Surtout qu'elle annonce dans cette déclaration qu'il n'y a que deux candidats de gauche. Mais alors elle a oublié de compter Antoinette Gillet, candidate Europe Écologie Les Verts, qui ne s'est pas désistée au second tour. Si elle l'avait fait, Denis Vuillermeau, le candidat PS, je le rappelle au cas où vous auriez oublié, aurait eu un siège au palais du Luxembourg. Mais dis-moi Antoinette, pourquoi as-tu fait cela ?
C'est simplement pour rester dans la ligne droite et rigoureuse qu'on s'était donnée depuis le départ.
Eh bien c'est bon, la ligne droite, elle est bien tenue. Enfin oui, les sénateurs du Jura, ils sont toujours à droite. Autre jeu de mots moisi, Antoinette Gillet a permis à Denis Vuillermeau de se prendre une veste. Ou un gilet. Écoutez-le donc maintenant équipé de son gilet, répondre à la question de France 3 Franche-Comté.
Est-ce que vous pensez quand même que les relations avec les écologistes dans le Jura vont encore se tendre alors qu'elles sont déjà très tendues ?
Oui, je pense qu'il y aura des difficultés pour préparer l'avenir.
J'adore le petit temps qu'il laisse avant de répondre. Ça crée une intensité dramatique, c'est puissant, on a l'impression qu'il va pleurer. Cette réponse, utilisée pour n'importe quelle question, peut te faire pleurer. Par exemple, je sais pas moi. Denis, tu vas bien ?
Oui, je pense qu'il y aura des difficultés pour préparer l'avenir.
Tu peux me passer le pain, s'il te plaît ?
Oui, je pense qu'il y aura des difficultés pour préparer l'avenir.
Comment ça ? Des difficultés pour préparer l'avenir du pain ? Le boulanger est-il décédé pendant la nuit ? Le 12-13 de France 3 Franche-Comté a ensuite enchaîné avec le jugement de cette mère bulgare qui avait tenté en 2009 de tuer son petit-fils pour se venger de sa belle-fille. Dont l'édition du soir a parlé aussi. D'ailleurs, une des présentatrices, on va lui demander, ça s'est passé où, ce fait divers ?
Dans le village de Four.
Ben, je veux pas la vexer, mais non, ça n'existe pas, le village de Four. Enfin non, ça s'est plutôt passé dans le village qui s'appelle Les Fours. Hein ? Donc, tant qu'à être dans cette histoire qui, en général, crée une belle ambiance, écoutons un extrait du reportage dans le 12-13. L'homme qui a fait ce reportage, il s'appelle...
Pascal Schnebele.
Ah, arrêtez de finir mes phrases, France 3 Franche-Comté, on n'est pas à France 3 ici. Alors écoutons...
Pascal Schnebele.
Non, en fait, je dis juste le nom parce que je trouve qu'il est rigolo. Allez, écoutons...
Pascal Schnebele.
Ce jour-là, j'ai décidé de tuer mon petit-fils et de me suicider pour que ma belle-fille souffre ce que j'ai souffert.
Ah non, ça va pas. L'ambiance, elle est pas assez plombée, il manque un petit truc, je sais pas quoi.
Ce jour-là, j'ai décidé de tuer mon petit-fils et de me suicider pour que ma belle-fille souffre ce que j'ai souffert. Froidement, sèchement, la vieille dame aux cheveux blancs décrit le processus qui l'amène ce 24 août 2009 à projeter de supprimer son petit-fils. Elle décrit l'enfer quotidien avec sa bru qui la méprise, dit-elle, et veut la renvoyer en Bulgarie, leur pays d'origine. Ce matin-là, elle apprend que son billet d'avion est pris, le retour.
Ah, c'est fou, on s'y croirait, hein, dans Faites entrer Schnabelé. En même temps, avec cette musique et un ton neutre, on obtient à peu près toujours le même résultat. On va prendre, par exemple, un article du site d'information macommune.info de lundi dernier. La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement a été décernée au gendarme Olivier Biret, militaire à la brigade de proximité de Blamont dans le Doubs, qui avait, le 11 avril 2011, sauvé d'une mort certaine un homme resté prisonnier d'un incendie de son appartement. Pourquoi seulement la médaille de bronze? Savent-ils à quelle fin peut être utilisé le mot bronze en argot? Hein, c'est quoi? C'est comme s'il lui donnait une médaille de merde? C'est pas très gentil. Enfin voilà. On va demander au 19-20 de Franche 3 Franche-Comté. De Franche 3 Franche-Comté ou de... Oui, plutôt France 3 Franche-Comté, de nous remonter le moral.
Après 3 mois de hausse, le chômage baisse à peine. Au mois d'août, moins 0,1% de demandeurs d'emploi ont été comptabilisés en France.
Cool! Ça veut dire qu'il reste juste 2 704 000 personnes qui sont au chômage total. Et si en plus, si on y a déjà les personnes en activité réduite, ça fait juste plus que 4 millions de chômeurs. De plus, en Franche-Comté, pour le mois d'août, Pôle emploi a enregistré une hausse des chômeurs de 0,8%. Waouh ! Ça mériterait que le ministre de l'Emploi passe sous l'arc de triomphe byzantin, comme aimerait que soit nommé la porte noire Philippe Gonon d'après macommune.info. Cette transition mérite que moi aussi je passe sous cet arc de triomphe symboliquement pour aborder la journée du mardi 27 septembre 2011. Un mardi heureux pour les enfants qui n'aiment pas l'école, qui ont pu regarder des dessins animés pour les plus jeunes ou des vidéos interdites pour leur âge pour les collégiens et lycéens, car les enseignants manifestaient contre les suppressions de postes. Les pauvres, que vont-ils pouvoir écouter dans leur voiture si on leur supprime leur poste? Meilleure blague de l'année. Alors, la une de l'Est républicain souligne que Ferrare...
Les enseignants du privé...
Oui, merci Jacques Pathé. Je n'ai pas inventé ce nom. Il s'agit du rédacteur en chef de France 3 Franche-Comté qui présentait mardi le 19-20. Donc...
Les enseignants du privé...
On rejoint le mouvement de protestation des enseignants. Ils sont bien sympas les enseignants du privé, mais s'ils peuvent plus écouter RCF en venant à l'école, alors là ils deviennent complètement ouf, et là ils sont prêts à battre le pavé. Si on est un peu tordu d'esprit... comme je le suis, on peut se dire que ces suppressions de postes sont peut-être à l'origine du fait divers suivant qui a eu lieu à Baume-les-Dames le lundi 26 septembre 2011 et dont parle France 3 Franche-Comté le mardi.
Agression à l'arme blanche, un élève a poignardé à 4 reprises un jeune homme de 18 ans.
Alors l'Est républicain offre même à ce fait divers une grande partie de sa une. Dans l'article intérieur, on y découvre que l'arme qui aurait été utilisée sera un couteau d'électricien. Eh bien, ils sont courants à l'Est républicain. Youpi, ceci était un jeu de mots pourri. L'impression générale que m'ont donnée les JT de France 3 Franche-Comté de ce mardi 27, c'était que la rédaction souhaitait nous faire peur, comme pour nous faire croire qu'un Sénat de gauche allait créer de l'insécurité. Vous voyez que j'ai l'esprit tordu. Je suis encore plus tordu que vous ne pouvez l'imaginer, puisque voici un montage de tout ce qui faisait peur dans l'édition régionale franc-comtoise du 12-13 de France 3. Attention.
Sur cette agression à l'arme blanche, poignardée à 4 reprises, un coma artificiel. Procès aux assises de cette grand-mère qui a voulu tuer son petit-fils afin de se venger de sa belle-fille. L'accusé. Incendie au cœur de la boucle, est ravagé par les flammes. Un incendie d'origine criminelle.
Le sinistre, le feu visiblement d'origine criminelle, d'importants dégâts. La cible d'un cambriolage.
La police a un cambriolage, pas mal de dégâts. Et ils ont dû se venger.
Manifestation, le drame, poignardé.
Les visages sont fermés. Le choc d'agression. Délinquance. L'atmosphère est pesante, lourde. Coup de couteau, garde à vue, gendarmerie, affaires criminelles, agression, les coups de couteau, coups de sang,
procès, tué.
Calvaire, crime, harpie, tyran, injure, méchante et menaçante. À la serpe, sorcière, emprise dévastatrice, les méchants tuaient son petit-fils pour se venger. Une haine viscérale.
Bouh! Sur 18 minutes et 25 secondes de journal, 49 secondes de mots qui font peur. Soit 4,4% du temps total du journal, pour dire des mots qui font peur. C'est que ça doit faire monter l'audience. Je devrais le faire aussi, afin d'avoir au moins 10 auditeurs. Allez maintenant, plein de mots qui font peur. Bouh ! Viol en réunion, catastrophe nucléaire, castration, Nicolas Sarkozy, gérontophilie, peine de mort, chat errant, toucher rectal, visage d'adolescent. Ah oui, je vous ai pas dit, comme l'émission dure une heure, je dois dire des mots qui font peur pendant 3 minutes. Allez, sac à crotte, le goitre d'Edouard Balladur. Oh, faut que j'arrête là. Je crois que je commence à aller trop loin. Et l'idée de laisser dans votre esprit un peu plus longtemps l'image du goitre d'Edouard Balladur me fait bien plaisir. Bon allez, je laisse France 3, Franche-Comté, en faire un petit dernier.
Abattoir départemental.
Bouh, abattoir départemental. Là, c'est vraiment tordu, car cette info ne parle pas d'un tueur en série qui sévirait uniquement dans un département, mais d'un sujet que je n'aborderai pas. Je voulais juste que l'on entende...
Abattoir départemental.
Bouh. Quoique, je peux m'en servir pour annoncer que, dans macommune.info, on annonce que les tirs de défense autorisés contre les loups français sont suspendus, le quota de 6 loups ayant été atteint en France. Meurtre de loup. Bouh. Une personne qui n'a peur de rien, c'est Pierre Dornier de l'Est républicain de Pontarlier, qui dans son billet de mardi dernier déclare qu'Hélène de Yougoslavie, la personne qui a donné des informations à propos de Karachi à la justice, aurait déjà rendu visite à la doyenne du Sauget. Alors moi qui pensais que la République du Sauget était une République irréprochable, ah non ça va. D'après le billet de Pierre Dornier, elle était, autant qu'on a pu en juger alors, sans bagage. C'est dommage en fait. Moi je l'imaginais bien la doyenne du Sauget recevoir des rétrocommissions dans des jumbés. Son nom de code aurait été Fatoumata de Montbenoît. Mais bon, comme on dit dans le Sauget, y a plus de saison. Toujours dans l'Est républicain mais dans les pages région, cette fois-ci, Sam Bonjean nous apprend que la montre de Raphaël Nadal est élaborée par un ex-byzantin qui s'appelle Richard Mille, mais on s'en fout. Donc cette montre a été achetée dans une vente de montres de luxe aux enchères pour la modique somme de 510 000 euros, soit l'équivalent d'environ 1 million de paquets de pâtes pas chères, soit 1643 ans de pâtes pas chères pour une personne. En même temps, c'est un petit joueur. Hein. Moi, si j'avais les moyens... Je me paierais l'horloge de 6 tonnes qui se trouve place de la Révolution à Besançon, je me la mettrais autour du cou. Là, je peux te dire que j'aurais la classe de chez classe, comme on disait pendant les années 90. Ah là là, les années 90, décennie des débuts d'Internet. En fait, c'est juste une transition toute moisie pour annoncer que le prochain article dont je vais parler provient du site internet macommune.info. Donc, ce site dit que les moteurs de tramway... peuvent être construits là où Alstom les construit à Ornan. C'est Jean-Louis Fousseret qui a dit ça. Et en plus, il a déclaré que plus le tram comportera d'éléments fabriqués en France, mieux ce sera. D'où l'intérêt d'avoir choisi une entreprise espagnole pour le construire. Allez, youpi, prenons le tramway temporel de la presse locale jusqu'au jour suivant, qui est le mercredi 27 septembre 2011. Faut que j'arrête les transitions pourries. Alors ce tramway temporel ne pourrait pas circuler sur la photo en une de l'Est républicain car il serait bloqué par le flot des manifestants. En effet, sur cette une du vendredi, on n'est pas au vendredi là, bon, c'est pas grave, du mercredi, l'Est républicain rappelle que la grève des enseignants ainsi que les manifestations ont été bien suivies, entre 1200 et 1400 personnes à Besançon. Ce que je n'ai pas totalement suivi personnellement, c'est le titre d'ouverture du 12-13 de France 3 Franche-Comté.
80 tonnes de copeaux de pneus usagés qui partent en fumée, l'image est impressionnante. L'incendie s'est déclaré cette nuit à Ours, petit village jurassien, il n'a pas fait de blessés.
Un feu de pneus. Effectivement, cela doit laisser une empreinte carbone pire que lors de la création de traces de pneus. Comprendra qui voudra. Heureusement, dans ce reportage... Le propriétaire de l'entreprise sinistrée est là pour nous rassurer.
Faut pas s'inquiéter dans la vie, hein. Non, ça va s'arrêter, c'est du pneu, ça goume, hein.
Comment ?
C'est du pneu, ça goume, hein.
Ça goume ? Ok. Je connaissais pas l'expression, peut-être ça existe, peut-être pas. Peut-être qu'une goume, c'est juste une grosse goumette pour mettre sur son bas, je ne sais pas. En tout cas, la prochaine fois... que je ne pourrais pas dire de peur de la froisser à une personne qui me demande un avis, je lui dirais « Ouais, ça goume. »
C'est du pneu, ça goume, hein.
Le prochain article qui sera abordé ici, j'ai envie de dire qui goume sec. J'aimerais rendre hommage à Éric Barbier de l'Est républicain, car dans un article, il énonce que les caprices d'un ruisseau nommé Gour pourraient être domptés par un éventuel projet de centrale micro-hydroélectrique. Eh bien, cet homme, Éric Barbier, il nous sort de la barbe de la presse. Jeu de mots pourri à côté du titre d'Éric Barbier, qui est, attention, ça suit son gour. Voilà. Donc, ce mercredi aussi, le site d'information macommune.info annonce l'arrivée d'un nouveau spot publicitaire télévisé pour le comté. En voici un magnifique extrait.
Le comté donne de la hauteur à vos plats. Il est temps de savourer le comté. Comté, comté.
Au moins maintenant, j'en suis sûr. La pub, même si elle est pour un produit franc-comtois, c'est nul, inutile, et le pire, c'est que ça donne même pas envie d'acheter le produit. Si on m'avait confié ce contrat publicitaire à moi, j'aurais fait un truc plus simple. J'aurais juste mis une phrase, ça aurait dit « Le comté, c'est comme de l'emmental, mais en meilleur, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Mais c'est meilleur. » Ou alors, faire un spot avec des roues de tracteur qui seraient remplacées par des meules de comté. Ah non, ça c'est con. Ce que j'aime bien aussi dans l'Est républicain, c'est dès que l'on se promène un peu dans les pages intérieures, on se retrouve comme aspiré dans le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Je prends un exemple dans l'Est de ce mercredi dernier. Prenons la page qui se nomme « Besançon et sa couronne ». Prenons le premier article. En fait, je suis en train de faire le générique de TF1 à la bouche. À Orquesnan, et là je fais semblant d'imiter Jean-Pierre Pernaut très mal. À Orquesnan, réhabilitation de la morte du champ Véron. Dans les années 60, la Loue a été endiguée pour protéger les riverains des inondations. Les travaux ont entraîné un creusement du lit de la rivière. Mais également au fil des ans, un comblement des bras morts, dites mortes envahies par la végétation et l'accumulation de matériaux où le poisson venait se reproduire. Ça marche avec tous les articles qui sont vers ces pages. Prenons le deuxième article. Tiens, j'ai une fresque en trompe-l'œil. Ah là, voilà, c'est comme ça la voix de Jean-Pierre Pernaut. Le conseil municipal a vu et a donné son accord pour la réalisation par Jean-Marie Pierret d'une peinture murale sur la façade arrière de la maison située à l'angle de la rue de Salines et de la rue des Forges pour un montant de 6 000 euros, toutes taxes comprises. Fantastique, hein, Jean-Pierre Pernaut. Moi, je m'envole avec ça. Pour en finir avec ce mercredi, penchons-nous sur un reportage du 19-20 de France 3, Franche-Comté, qui suivait une délégation d'élus bisontins emmenée par le fameux maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, dans sa visite chez le constructeur espagnol du futur tramway bisontin. À un moment, dans ce reportage, on peut voir l'édile bisontin aux commandes d'un tramway, et il dit cela.
Si je mets je risque d'avancer, quoi.
Et je crois que le maire de Besançon vient de comprendre qu'un tramway n'est pas statique. Oui, monsieur le maire, ça risque d'avancer, c'est un moyen de transport. Et transporter, ça signifie trimballer d'un endroit à un autre, ce qui nécessite un mouvement. Sinon, on apprend dans ce reportage que les pièces détachées seront fabriquées dans le Pays Basque espagnol, puis assemblées à Bagnères-de-Bigorre, dans le Pays Basque français. Pour ce qui est des moteurs, voici ce qu'en dit Jean-Louis Fousseret.
Par exemple, peut-être... Si CAF et Alstom se mettent d'accord pour fabriquer les moteurs à Ronan, on augmentera encore le pourcentage de produits français à l'intérieur de ce tram et j'en serai heureux.
Oui, j'avais envie de laisser le petit bruit de moteur à la fin du sample, afin de ne pas avoir à faire de blagues sur Jean-Louis Fousseret, parce que je flippe. En tout cas, je ne sais pas si ce tramway sera bénéfique ou néfaste pour Besançon, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait au moins un sujet de discussion pour les bisontins et puis pour les gens comme moi. Alors, j'ai même pas à m'embêter à chercher une transition, puisque cette visite d'élus bisontins dans les locaux de CAF, le constructeur espagnol, le constructeur du futur tramway de Besançon, fait la une de l'Est républicain du jeudi 29 septembre 2011. Vous l'avez donc compris, nous allons donc désormais faire la revue de presse des éditions quotidiennes de Presse Byzantine du jeudi 29 septembre 2011. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas ce que vous êtes en mesure de comprendre. Alors, j'ai envie de commencer... comme l'Est républicain qui, dès son premier article de ce jour, nous fait un petit hommage à Jean-Pierre Pernaut. Bien les usiers, un panneau à l'ancienne a été détruit il y a presque 2 ans par un accident et il a retrouvé sa place. Refait par un artisan, ce panneau à l'ancienne, comme il en reste très peu le long des routes, fait la fierté de la commune et de ses habitants. Je suis vraiment fan de ces instants Jean-Pierre Pernaut. Sinon, dans le 12-13 de France 3 Franche-Comté, ils reviennent sur l'interdiction de camping dans la zone du lac de Vèvre vers Vesoul, décidée par le maire de Vèvre et Monteuil. Écoutez comment Clément Jeannin, qui présente l'édition régionale du Midi ce jour-là, commence à parler de cette histoire.
Taille de verre, déchets en tout genre ou encore promeneurs parfois incommodés.
Ah oui, j'adore jouer au Camoulox. Alors, champignons sur les ongles de pied, verrues derrière le genou et vaccin anti-tétanos.
Taille de verre, déchets en tout genre ou encore promeneurs parfois incommodés.
Camoulox. Pierre Lortet, le maire de cette commune, interrogé par les équipes de France 3 Franche-Comté, à propos de cette interdiction, donne pour exemple ceci.
Il y a eu des interpellations en des termes que je qualifierais d'incorrect, de très incorrect même. C'est allé même très loin, puisqu'il y a un pêcheur, un campeur, qui s'était même permis de mettre une pancarte. Mesdames, si vous voulez passer un bon moment, venez sous la tente. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout goûté à ce genre de publicité. Et c'était vraiment navrant. Il fallait arrêter ça absolument.
Bah, si le juste écrit venait passer un bon moment, peut-être qu'il organisait des parties de Monopoly sous sa tente. Peut-être même qu'il faisait un karaoké que pour chanter Stone et Chardin, il n'avait pas de Chardin ou de Stone. En fait, de toute façon, dans Stone et Chardin, l'homme avant était une femme et inversement. Je précise que ceci est une blague idiote et que je suis en train de diffamer. Enfin, afin de juguler le problème, il a été décidé ceci d'après le 12-13 de France 3 Franche-Comté.
Désormais en guise d'abri, seul un parapluie géant est autorisé.
C'est une très bonne initiative. Ainsi, la pancarte du copeur qui proposait aux dames de venir passer un bon moment sous sa tente est obsolète. Il devra désormais en faire une, où il pourra inscrire « Mesdames, venez passer un bon petit moment avec mon parapluie géant ». Rangeons ce parapluie géant métaphorique, car tout le monde sait que cela porte malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur, y compris à l'intérieur d'une chronique. Une fois rangé, de plus, j'aurai les mains libres pour naviguer sur le site macommune.info qui annonçait ce jeudi qu'à l'appel des syndicats CGT et Sud, 90% des agents d'exécution hors CDD du Centre National Fournisseur de la Poste se sont mis en grève. Ah bah oui, ils doivent avoir peur des suppressions de postes hein, contre lesquelles se battaient les enseignants. Bah oui, un agent d'exécution de la Poste, si on supprime les postes, il a plus de travail. Blague de merde, ça c'est fait. Non, en fait, toujours d'après macommune.info, ils réclament le respect des agents, l'arrêt des pressions incessantes, le respect des cycles et positions de travail, le retour à des relations normales entre les agents et une partie de leurs encadrants, avec pour conséquence un climat très tendu sur ce centre. Moi, ce que je leur proposerais, pour faire redescendre la tension, c'est de faire un combat tous ensemble, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure, comme ça après ils seront liés par un terrible secret, puis ça créera des liens d'amitié. Sinon, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les pages économiques de l'Est républicain. Dans les résultats de la bourse, on ne voit qu'un seul logo. Et ce logo est celui du Crédit Mutuel. Et chaque jour, c'est toujours ce même logo qui revient, c'est le seul. Je suppose bien sûr que l'apparition de ce logo n'est pas due au fait que le Crédit Mutuel soit actionnaire majoritaire dans la société qui détient l'Est républicain. S'ils veulent faire du pluralisme publicitaire afin de ne pas être grillés par des petits emmerdeurs comme moi, je leur propose au moins de mettre l'écureuil de la caisse d'épargne avec un couteau dans la main. Bon, pour conclure la revue de presse de jeudi, allons donc dans l'édition du soir de France 3 Franche-Comté qui nous annonce...
Quatrième épisode ce soir de notre feuilleton consacré à un projet fou.
Un projet fou ? Waouh ! Ça nous mettra en haleine. Mais quel est donc ce projet fou ? Faire une liposuction à Jean-Louis Fousseret ? Faire un festival de musique pour les sourds ? Passer sa journée la tête dans l'arrière-train d'une vache ?
La construction d'un château fort dans Lyon, selon les techniques du XIIIe siècle.
Waouh ! Le projet fou, construire un château fort avec les techniques du XIIIe siècle. J'espère qu'avec, ils ont la condition de serf et qu'ils appartiennent à un seigneur. Oh, on peut pas avoir tous les avantages dans la vie. Partons donc sur notre cheval habillé des armoiries de la seule émission qui n'a pas de nom pour nous diriger vers le vendredi. Et cette revue de presse de vendredi commence en fanfare, mais une fanfare bien virile de commissariat. J'ai trouvé cette information dans l'Est républicain où un homme d'une vingtaine d'années est entré dans le commissariat de Pontarlier avec une drôle d'idée en tête. En effet, il s'est dirigé vers un policier et a déclaré « Jetez-moi en prison ». Quoi de plus normal? Qui ne s'est jamais dit ça? Tu vois, si j'allais passer les prochains mois de ma vie dans 9 mètres carrés avec au moins un autre type que je pourrais contempler lorsqu'il sera sur le trône et inversement, le tout privé de ma liberté de mouvement. Qui n'en a pas rêvé? Les policiers ne souhaitant pas lui offrir ce plaisir, le jeune homme a rétorqué « Jetez-moi en prison, quitte à ce que je frappe un flip ou que je vole une voiture. » Si vraiment il a envie d'être en prison, il y a des solutions pour y rester plus longtemps. Il pourrait égorger des vieilles dames, faire découvrir l'amour à un nourrisson. Donc voyant que les policiers n'obtempéraient pas à sa demande, il est passé de l'autre côté du comptoir. Il a juste eu le temps de saisir le bras d'un policier avant de se faire maîtriser et placer en garde à vue. Bon, ça va, pour finir, il a quand même réussi à passer la nuit en tôle. Ce vendredi, en regardant l'édition de la mi-journée sur France 3, je sentais quelque chose pointer en moi. Tel un début d'érection. Ce n'était pas le présentateur du jour, Jérémy Chevreuil, qui provoque en moi de telles sensations, mais simplement ce lancement.
160 000 francs comtois invités à passer une mammographie.
Mammographie. Vous allez vraiment finir par croire que je suis tordu, rien à foutre. Je suis un rebelle. Enfin bon, mon début d'érection entamé, le lancement continue.
Nous allons vous expliquer pourquoi cet examen est essentiel pour prévenir le cancer du sein, le cancer le plus meurtrier aujourd'hui en France.
Ça coupe un peu les ardeurs, ça. En tout cas, j'ai été choqué. Dans le sujet, on voit des seins. Alors j'ai envoyé une lettre au CSA, et c'est inconvenable de montrer dans le service public de telles parties de corps. Surtout à l'heure du repas. Est-ce que moi je montre mes seins à l'antenne Radio Bip? Non mais... Toujours dans le 12-13 de France 3 Franche-Comté, qui est là aussi pour nous alerter des horribles dangers qui nous guettent.
La gendarmerie demande la plus grande prudence dans le Nord Franche-Comté.
Oh mon Dieu, un grand danger nous guette! Mettez-vous tous en position fœtale sous votre table basse, faites vos réserves de nourriture en boîte de conserve. Enfin, faites plutôt les provisions avant de vous placer en position fœtale sous votre table. Mais France 3, Franche-Comté, quel est donc ce danger odieux qui va nous obliger à manger du cassoulet pendant des années?
Il s'agit du gang des bitumeurs anglais.
Non!
Qui a fait pas mal de victimes en Belgique, aux Pays-Bas et dans plusieurs régions de France.
Pas le gang des bitumeurs anglais. Je suis sûr que ce sont de dangereux psychopathes britanniques qui vous forcent à manger du pudding jusqu'à ce que mort s'en suive et qui ensuite ne vous laissent pour seule sépulture que du bitume. Nom d'une chemise à jabot, je suis effrayé. Ai-je raison, monsieur le gendarme interrogé par France 3 Franche-Comté?
Ils se présentent, ils proposent leur service. Certaines personnes acceptent, donc ils prennent rendez-vous, viennent creuser la cour et ensuite déposer cet enrobage de bitume, qui, bien entendu, que lorsqu'il est chaud, on ne peut pas s'apercevoir de la qualité de celui-ci, donc se font payer, quittent les lieux, et puis le lendemain ou deux, trois jours suivants, on s'aperçoit que ce bitume est de très mauvaise qualité, part en miettes, et donc là, il y a tromperie sur la marchandise et l'escroquerie est constituée.
Merci France 3 Franche-Comté de nous éviter de vivre d'affreux moments, d'avoir d'horribles visions de goudron en miettes. L'information la plus importante que j'ai pu recueillir dans l'Est Républicain se trouve dans la page Besançon, couronne de ce vendredi. Cela se déroule à Danemarie-sur-Crète et le titre parle de lui-même. Préparez bien vos oreilles, conduire à tracteur en toute sécurité. En gros, des élèves de lycée sont sensibilisés au danger de la conduite en tracteur. Ce que je trouve assez drôle dans cet article, c'est lorsque le journaliste explique que les jeunes côtoient les mêmes risques que les jeunes ruraux côtoient les mêmes risques que les jeunes urbains, comme l'alcool, la drogue, mais aussi la vitesse. C'est bien connu, les fameux excès de vitesse en tracteur. D'ailleurs, les personnes qui ramènent des stupéfiants à fond sur l'autoroute, dans ce qu'on appelle les go-fast, maintenant, ils utilisent des tracteurs. Ce tracteur ne nous sera pas d'une grande utilité pour rejoindre le site macommune.info sur lequel on pouvait lire un article, on peut toujours le lire, publié ce vendredi, qui explique qu'une rumeur propagée sur Facebook selon laquelle un mois de vacances allait être supprimé a entraîné des manifestations de centaines de lycéens dans plusieurs villes de France, notamment Vesoul. Ça donne envie de propager des rumeurs sur Facebook. Oui, j'ai pas beurre de dur Facebook à la radio. Et moi, personnellement, je propagerais la rumeur de la mort de Nicolas Sarkozy afin de nous soulager d'une partie des retraites à payer compte tenu des morts subites des personnes qui l'aiment bien. Ça pourrait entraîner. Enfin, ne mourrez pas subitement. Attendez la fin de cette revue de presse. Nous y arrivons presque puisque nous passons au samedi. Très subjectivement, je pense que l'article le plus intéressant de l'Est Républicain de ce samedi et qui aurait mérité... la une, voire une double page, ce sont les 30 ans de Radio Bip. Ils n'oublient pas de signaler que ce fut la première radio libre de Besançon, mais ils oublient de préciser qu'il s'agit aussi peut-être de la dernière radio libre de Besançon. Je dis ça en toute objectivité, bien sûr. Le samedi, le week-end, les gens sont heureux, en famille. Ils souhaitent s'informer un petit peu avant d'aller faire une petite balade en famille, de s'aérer, flâner, voire prendre le bus pour aller voir un petit match de foot. Et voilà ce qu'ils ont entendu au JT de France 3 Franche-Comté.
Mis en examen, ils sont accusés d'avoir séquestré, torturé et violé un jeune homme de 17 ans, violeur présumé d'une fillette de 7 ans. Ce chauffeur de bus est soupçonné d'avoir abusé de sa jeune victime lors d'un match de football.
Du coup, le foot, on va peut-être oublier. Hein, le bus aussi. Hein, je crois qu'on va passer l'après-midi à regarder la télé. Passons de l'écran de la télévision à celui de l'ordinateur afin de discuter d'une critique postée sur macommune.info. Il s'agit d'une critique d'un film qui se nomme Un heureux événement avec Louise Bourgoin. On voit pas le rapport avec l'information locale. Ah si, le film est réalisé par un certain Rémi Besançon mais avec un Z. Que pense France 3 Franche-Comté de l'utilité de cette info ? J'ai hésité longtemps avant de faire cette blague offensante. En effet, ça peut sembler très offensant à l'encontre des handicapés. Les faire passer pour des journalistes de France 3 Franche-Comté, ce n'est pas très sympa. Mais j'ai fini par la faire, car de nos jours, l'humour communautaire est assez bien perçu. Et étant moi-même handicapé, de par certaines déficiences mentales, je peux donc me permettre ceci. C'est pour ça que, comme France 3 Franche-Comté, je peux m'engager pour qu'il y ait plus de maisons d'accueil spécialisées. Le message est passé. Je suis ébahi devant le risque pris par l'Est républicain de ce vendredi. Ils osent révéler d'odieuses machinations contre les Français. En effet, ils rapportent que les nouveaux compteurs Linky qui étaient présentés comme permettant de réduire la consommation d'énergie n'entraîneraient aucune incidence après test. Ils feraient même augmenter la facture car seraient plus sensibles au disjonctage et obligeraient quelques abonnés à prendre un abonnement d'un voltage supérieur, donc plus cher. Ils ajoutent que malgré l'annonce de gratuité de l'installation obligatoire de ces nouveaux compteurs dits intelligents, cette installation a un coût et se répercutera ainsi sur le prix de l'électricité. Heureusement que le crédit mutuel n'a pas d'intérêt chez un fournisseur d'électricité, on aurait pu passer à côté de cette information essentielle. Donc toujours dans l'Est républicain, on apprend aussi que normalement le prix du tabac devait augmenter aujourd'hui, le 3 octobre, de 6%, mais n'augmentera finalement que le 17%. Si vous comptiez commencer à fumer, bah faites-le maintenant, ça revient moins cher. Une autre hausse également de 6% interviendra en 2012. Le gouvernement ne craint pas de perdre les voix des fumeurs pour les prochaines échéances électorales, car les pauvres fument plus que les riches et a priori, ils ne comptent pas sur les voix des moins bien lotis, sauf ceux qui aiment pas voir les étrangers en France. Ah, j'ai perdu ma ligne, ça faisait longtemps, voilà. Pour terminer la revue de presse de samedi, j'ai envie de dire que le week-end, il y a moins d'informations et que j'ai moins envie de travailler. En plus, samedi a été plus court que les autres jours. Et si vous n'êtes pas content, je vous attends à la sortie de votre lycée avec un couteau. J'ai peur de rien. Il y a la gauche au Sénat. J'ai pas le droit de recycler les blagues du début de la revue de presse. Eh si, c'est mon émission. Je fais qu'est-ce que je veux. Il est temps que je me repose et ça tombe bien puisque le jour concerné par la suite de cette revue de presse est le jour du repos, le dimanche, ce jour même, celui où même si t'as envie de faire quelque chose, bah tu peux rien faire parce que tout est fermé. Et les jours se suivent et se répètent, et je vais encore ouvrir la revue de presse de dimanche avec un article ô combien important. Bien sûr, en toute objectivité, je veux parler de cet article en première page de l'édition Doux au Doux de l'Est républicain qui parle de Radio Bip. Oui, encore. Et il rappelle encore que la radio a 30 ans, ce qui est un peu inconvenant quand même de dévoiler l'âge d'une dame. Maintenant que j'y pense, cette radio est plus vieille que moi. Peut-être je l'ai entendue quand ma mère était dans la voiture qui l'amenait à la clinique de la Mouillère. C'est sûrement pour ça que je suis bisontin, indépendant et populaire. Bon, je suis déjà bisontin, ça c'est sûr. Indépendant. Si on se dit qu'être au chômage, c'est être indépendant, allez, ça marche. Populaire, à fond. Il y a au moins un visiteur par jour qui se rend sur le site de l'émission. Hein. Eh, pas mal, hein. Bon, d'accord. C'est moi ce visiteur qui vient sur le site de l'émission. En une de l'Est républicain Doux au Doux, on parle des fêtes médiévales qui ont lieu au château de Joux. Mais je n'en parlerai pas plus et m'en servirai uniquement comme transition pour dire que l'édition de la mi-journée du JT de France 3 Franche-Comté lui ouvre avec à des actes de vandalisme perpétrés dans la secpa du collège d'Hydro. À mon avis, ceux qui ont fait ça, soit ils n'ont pas pu se rendre aux fêtes médiévales du château de Joux, ils étaient dégoûtés, soit ils y sont allés, et même verdict, ils étaient dégoûtés aussi. Trêve de plaisanterie, dans le 12-13 de France 3 Franche-Comté, Claude Jeannereau, président du conseil général du Doubs, revient sur ces dégradations, et il y a des trucs qui font des bruits derrière moi. Mais je n'ai pas peur.
S'il est un établissement public qui doit être sanctuarisé, préservé, c'est bien un établissement d'enseignement, car c'est un établissement où on prépare les enfants à leur avenir.
Ah bon ? Les établissements d'enseignement, on fait comme si on n'entendait pas que ça sonne derrière moi, sont là pour préparer les enfants à l'avenir. Moi qui croyais que les établissements d'enseignement étaient là pour préparer les adultes à leur passé. Ça valait le coup de parler, à moins que ce soit pour récupérer les voix des enseignants. Ouh là 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 là, je m'engage à fond ce matin, rébellion contre tout. Je suis pas du tout déconcentré par la sonnerie. En parlant de voix, dans l'Est républicain se trouvait une magnifique page d'information, de pub, pour les primaires citoyennes du Parti Socialiste qui se tiendront les 9 et 10 octobre. Une jolie page, très lisible, avec tous les bureaux de vote du Doubs. Très sympa à lire, très bien écrit. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire une petite lecture. Primaire citoyenne. Les bureaux de vote. Primaire secteur de Besançon. Petit triangle. Besançon-Ville. Centre Nelson Mandela. Maison de quartier Planoise. 13 avenue Île-de-France. Pour les bureaux suivants. 601. Groupe scolaire Île-de-France. 6 rue de Malines. 602. École maternelle Picardie. 6 rue de Dijon. 603. Groupe scolaire Bourgogne. 7 avenue de Bourgogne. Je veux pas casser le suspense, alors j'arrête la lecture. Mais juste ces quelques lignes vous ont transporté dans le monde féerique de la littérature. Et il y a plein d'autres petits triangles tout aussi intéressants, comme par exemple le petit triangle Canton d'Audeux, ou l'autre dénommé Secteur de Saône. Je me suis rarement autant régalé en lisant un article, une pub, et je vous en conseille fortement la lecture. Sinon, dimanche, macommune.info annonce que le 2 décembre, je crois, le cirque de Moscou sur glace sera à Besançon. Si j'en parle, c'est que si peu de mots m'inspirent trois prédictions. Alors, cirque de Moscou sur glace. Cirque. Un grand cirque médiatique autour de Sarkozy d'ici peu. Moscou, ça m'inspire un futur gouvernement de gauche d'ici peu. Et la glace, ça m'inspire un hiver tout pourri d'ici peu. Je suis sûr qu'au moins une de mes trois prédictions se réalisera. Et je vous la repasserai en vous disant, je vous l'avais bien dit, hein. Quant à mes erreurs, elles disparaîtront mystérieusement de toutes les archives. Pour ma défense, je n'aurais pas fait exprès. Cela aussi, je vous le dis, je vous le prédis par avance. Et j'ai une autre prédiction à faire, c'est que cette revue de presse touche à sa fin et que j'ai envie de vous passer une petite chanson d'Orelsan pour terminer de son dernier album. Une chanson qui s'appelle Suisse sociale, on pourra pas l'écouter en entier, sinon je vais déborder. Mais elle est très bien. Allez, bon lundi.
Aujourd'hui sera le dernier jour
et bonne semaine, à lundi prochain.
Mon dernier silence, j'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini.
Et voilà, on va se quitter tristement, mais heureusement, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme j'ai dit juste avant, bon lundi, bonne semaine. Et je vais mettre la suite normale des programmes de Radio Bip. Eh ben, bonne musique les jeunes, bonne suite et les vieux aussi, hein, tout le monde. J'aime tout le monde, moi. Pourtant la pro d'avis, dans le refus d'être des mots, et trompe les yeux les plus subtils de leur sensualité fantôme, mais être une femme supportée.